le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme? Les animaux ont-ils tous les mêmes droits? Comment parle-t-on de la violence sur Internet? Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et Radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et société, rencontre histoire de ma thèse ou histoire de ma recherche viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. Pourquoi des informaticiens développent des logiciels libres? Pourquoi publier sur Wikipédia? Pourquoi choisir un habitat participatif? Quels intérêts ces personnes, ces communautés trouvent-elles dans ces projets en commun? Au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs? Pour en débattre, nous avons convié Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit, auteur d'un article sur l'affacturation de services de police aux collectivités locales. Et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». Pour entamer notre réflexion, nous nous intéressons dans ce premier numéro à la façon dont un juriste, un sociologue et un économiste définissent les communs.
Bonjour. Alors, on commence déjà dans des questions un petit peu compliquées. C'est de définir ce qu'on entend par commun. De dire finalement comment on peut l'analyser. Alors, on est avec des juristes et des sociologues et des économistes. On ne va pas forcément avoir la même définition d'un commun. Si vous regardez les livres qui sont à la bibliothèque, ils n'utilisent même pas tout à fait les mêmes mots. Il y en a qui parlent de bien commun. Il y en a d'autres qui parlent de choses communes. Alors, il y en a d'autres qui parlent de commons en anglais, mais qui se retraduit par ressources communes. Et finalement, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui fait tout la difficulté et en même temps la richesse de ce terme? Alors, je ne sais pas, j'ai combien de temps? 2 heures? 1 heure? 10 minutes?
On peut passer 10 minutes.
Hein. 10 minutes, non, mais plus sérieusement, pour un économiste, la notion de commun vient un petit peu d'Ostrom déjà, donc qui est une économiste qui travaillait sur ces notions-là dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a analysé un peu ces biens à partir de deux choses qui pour les économistes sont très importantes. C'est est-ce que ces biens sont rivaux ou soustractifs? C'est-à-dire est-ce que le fait que vous consommez quelque chose me prive moi de le consommer. Alors l'exemple classique, c'est une pomme. Si vous mangez la pomme, je ne peux pas moi consommer la même pomme. Un bien qui sera non rival, ça sera par exemple la défense typiquement. C'est quelque chose qui est... Si vous consommez la défense, une défense, a priori, vous ne pouvez pas... Moi aussi, je peux la consommer sans problème. L'enseignement aussi, quand on est... dans une salle, a priori, ce n'est pas rival. C'est-à-dire que vous tous, là, consommez ma parole. Ça sera après sur Radio U. Et ça ne vous empêche pas, les autres, de la consommer. Donc cette idée de rivalité ou de soustractivité est importante. Et l'autre point qui est important pour un économiste, c'est est-ce que c'est un bien qui est exclusif, au sens anglais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut exclure, facilement ou pas, des gens de la consommation de ce bien? Alors, si je reprends toujours cette conférence, c'est assez facile d'empêcher des gens d'écouter. Il suffit de fermer la porte de la bibliothèque. Hein, et donc, seuls ceux qui sont rentrés, qui sont arrivés à temps, ont le droit de consommer. Donc, ça peut être non rival, mais exclusif. Et puis, par contre, un bien qui est exclusif, c'est toujours la pomme. Hein, c'est-à-dire que si je l'ai avec moi, ce bien-là, il sera à moi, il ne sera pas à vous. Alors, donc pour continuer sur cette idée d'exclusif ou de rival, le fait qu'un bien soit exclusif fait que, et rival, ça c'est les biens que les économistes aiment bien, parce que ça c'est les biens faciles, on sait comment les traiter, enfin on sait d'un point de vue théorique, c'est à moi, et je peux le consommer ou éventuellement l'échanger, si j'échange c'est plus à moi, c'est à vous, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec, consommer, l'échanger, etc. Donc ça, on sait faire. D'autres biens, les autres biens, les biens qui ne sont pas exclusifs ou pas rivaux, c'est un peu plus compliqué. Alors ceux qu'on maîtrise assez bien en économie aussi, c'est les biens club. Bien club, ça veut dire que c'est exclusif, mais ce n'est pas rival. Donc je peux fermer, mais une fois que vous êtes dedans, en gros, tout le monde y a accès. Bon, il y a quelques petites conditions supplémentaires, mais en gros, c'est ça. Donc ici, on est sur un bien, qui, par exemple, qui est un bien relativement, un bien club. Vous êtes venus, vous êtes déplacés, on est tous ensemble, et puis on ferme la porte, il n'y a que vous qui pouvez en profiter. Mais le fait que vous soyez 10, 20 ou 30 comme vous êtes aujourd'hui ne change pas grand-chose individuellement à votre consommation. Donc jusque-là, tout ça, on maîtrise. Après, il y a des biens qui sont plus compliqués pour les économistes, c'est les biens, ce qu'on appelle les biens publics. Ceux-là, ils sont ni rivaux, ni exclusifs. C'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder, et a priori, on ne peut pas empêcher les gens d'y accéder. Mais une fois que vous y accédez, eh bien, ça ne gêne pas la consommation. Alors, c'est un problème pour un économiste, parce qu'on va avoir le problème de ce qu'on appelle passager clandestin. C'est-à-dire que, a priori, si tout le monde est intéressé à ce que ce bien existe, mais puisqu'on ne pouvait pas vous empêcher de l'utiliser, pourquoi vous participeriez à sa construction? Et enfin, c'est ce qui va nous occuper un petit peu plus ici, il y a ce qu'on appelle les biens communs, ce que Ostrom a étudié, c'est-à-dire des biens qui sont en même temps rivaux, c'est-à-dire que si les gens les consomment, ça diminue la possibilité pour d'autres de les consommer, mais difficilement exclusifs. C'est-à-dire qu'on peut, c'est assez dur de réguler cette consommation. Par exemple, l'exemple assez classique, ce sont les pêcheries. Si vous avez une pêcherie en mer, vous voyez bien que c'est assez difficile de surveiller ce qui se passe. C'est grand. Et en même temps, si tout le monde surpêche, on sait bien ce qui se passe avec la morue, par exemple, il n'y en a plus au bout d'un moment. Donc là, on a un vrai problème d'action collective, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se restreignent dans leur consommation pour que ce bien dure. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'un économiste va raisonner sur ces biens-là, sur le bien commun, bien rivaux, rival ou exclusif, et puis un peu définir ces biens-là. Alors, deuxième chose qui est importante pour le débat, c'est qu'un bien, il n'est pas tout le temps dans une case. Déjà, c'est des cases un peu théoriques, évidemment, les biens, c'est un petit peu plus compliqué. Et aussi, ça dépend. Si on prend, par exemple, un logiciel, aujourd'hui, on peut dire que le logiciel, théoriquement, c'est un bien public. Une fois qu'il est sur Internet, il va se balader, c'est assez facile à télécharger, donc il n'y a pas beaucoup d'exclusivité. Et puis, si vous le consommez, vous pouvez faire une copie facilement, quelqu'un veut le passer à votre voisin. Donc, c'est typiquement un bien public. Ça n'a pas toujours été le cas. On oublie de dire que, au début de l'informatique, le logiciel, ça n'existait pas, en fait. C'était une machine avec un programme dessus. Puis après, ça a commencé à exister. C'était une boîte qu'on achetait. Là, c'était un bien classique. Et puis, aujourd'hui, c'est plutôt un bien public. Donc, on voit que les biens peuvent se promener un petit peu pour des questions physiques ou de technologie, mais aussi pour des questions de droit. Et là, je regarde mon camarade. Le logiciel n'a pas toujours été un droit où il n'y avait pas toujours eu un propriétaire du logiciel. Ça date de 1984, cette idée que... Alors, pour moi, je trouve ça assez récent. Cette idée qu'un logiciel puisse avoir un propriétaire, qu'on puisse dire, c'est à vous, ça. Vous êtes l'auteur de ce code et vous avez le droit, finalement, d'empêcher d'autres de l'utiliser. Donc, un bien, pour finir, un bien, c'est quelque chose qui se définit pour un économiste suivant la façon dont on peut le consommer, y accéder et le consommer collectivement. Et cette définition-là, elle dépend des conditions technologiques, des usages aussi, des coutumes. Et enfin, elle dépend aussi, notamment dans ces coutumes-là, du droit qui est afférent à ce bien et que la société collectivement a imposé. Et donc, pour moi, les biens communs sont des biens qui sont plutôt des biens qui sont non exclusifs et rivaux. Et je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point dur des économistes. Après, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport aux biens, et on disait la définition, c'est qu'il y a aussi une... Aujourd'hui, et ça je pense que ça fera aussi partie des questions du débat, donc un bien commun, c'est quelque chose qui est géré collectivement par des personnes. C'est ça que Ostrom a montré. C'est que si on confie la gestion de ce bien à un groupe de personnes relativement fermé, ils sont capables de gérer ce problème-là de pas trop le surconsommer, de le maintenir et de le rendre finalement durable. Donc c'est là qu'on va rejoindre d'autres définitions du commun, de la chose commune ou de la chose publique qui se mélangent un petit peu dans le débat. C'est qui, aujourd'hui, le commun, j'ai l'impression en tout cas, c'est devenu de plus en plus toutes les choses qui sont gérées collectivement. Alors, ce qui fait un peu frémir l'économiste, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées collectivement qui ne sont pas des biens communs, par exemple beaucoup de biens clubs. Mais c'est aussi un petit peu ce débat qu'on va avoir sur qu'est-ce qu'on fait en commun, qu'est-ce qu'on fait collectivement, et est-ce qu'on a besoin d'appeler ça bien commun pour toutes ces choses-là. J'en suis pas sûr. Je ne voudrais pas monopoliser la parole.
Merci, Nicolas. Donc, je vais m'adresser à Pierre Servin, que je représente, doctorant en sociologie, qui a fait une thèse sur l'habitat participatif. Pierre, vous avez raté le début de l'introduction de Nicolas, mais pas beaucoup. Il y avait quelques mots-clés, hein, les biens, ils sont soustractifs ou pas, rivaux ou pas. Bon, les sociologues lisent aussi de l'économie, évidemment. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir maintenant, après avoir vu le point de vue de quelqu'un qui est plutôt économiste, le point de vue d'un sociologue, et notamment d'un sociologue qui a travaillé sur l'habitat participatif. Donc pour vous, Pierre, comment définir, en intégrant ce qui a déjà été dit, les communs à partir de la sociologie et à partir de votre travail, et éventuellement situer quelques... Bon, il y a point de rencontre forcément avec ce qui a déjà été dit, et peut-être d'autres, des petits écarts du sociologue par rapport à l'économiste, au moins dans la préoccupation, dans la compréhension de la chose.
Oui. Alors bonjour, excusez-moi d'être en retard, premièrement. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que sur la notion des communs, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein d'entrées. Et en fait, on peut parler d'une chose, d'une autre. C'est, par exemple, la notion des biens rivaux, de clubs. Moi, j'ai travaillé là-dessus aussi, puis finalement, ça n'a pas été mon angle. Alors, c'est parce que peut-être que je ne suis pas économiste, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment plein d'angles possibles. Et alors, moi, c'est sur lequel je suis entré au fur et à mesure. C'est par mon angle, le mien, qui est les habitats participatifs. Alors d'abord, du coup, avant d'arriver vraiment sur en quoi je reconnais que ce sont des communs, je vais d'abord vous dire en deux mots, enfin en trois ou quatre ou un peu plus, qu'est-ce que c'est que les habitats participatifs. En deux mots, enfin rapidement, les habitats participatifs, c'est des habitants qui se regroupent pour monter collectivement un projet immobilier, et ensuite qui montent aussi collectivement leur habitat, c'est-à-dire leur projet d'habitat. Une fois que c'est construit, ça continue à être un projet pour habiter ensemble. Donc là, on peut déjà parler vite fait de commun, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça serait un peu trop rapide de dire que c'est juste parce qu'on est plusieurs et que c'est un groupe que c'est un commun. Ça serait un peu trop rapide. Donc c'est pas que ça. Donc il y a une forme de regroupement, mais déjà c'est une forme de regroupement très particulier, l'habitat participatif. C'est-à-dire que chaque famille ou chaque foyer, vous dites ça comme vous voulez, le sociologue, on va plutôt dire chaque ménage, reste une entité à part entière. Donc chaque ménage a son logement autonome. Donc c'est important de préciser ça pour dire que l'habitat participatif, ce n'est pas de la colocation, ce n'est pas tout ce qui est habitat partagé, ce n'est pas un habitat communautaire non plus, où finalement tout le monde habite dans le même logement. Y a un slogan qui raconte bien ça, c'est le slogan « Vivre ensemble, chacun chez soi ». C'est-à-dire qu'on vit ensemble dans le même immeuble, par exemple, ou dans le même habitat d'un point de vue global, mais quand même, chaque ménage a son propre logement. Donc ça parle assez bien. Il y a une sorte de paradoxe là-dessus, et puis il y a une sorte de tension qui sera toujours vive dans n'importe quel habitat participatif. Donc on arrive à cette conclusion-là, que les rapports de ceux qui habitent dans des habitats participatifs, c'est à la fois des rapports de voisinage et des rapports de cohabitation. Donc on est à la fois habitant, cohabitant et voisin. Alors que normalement, c'est un oxymore, c'est pas possible. Si on est voisin, on peut pas être cohabitant parce qu'on n'est pas dans le même logement. Si on est cohabitant, on n'est pas voisin parce qu'on est dans le même logement, donc on n'est pas voisin. Donc c'est un oxymore. Dans les habitats participatifs, on est à la fois voisin et cohabitant. Ouais ?
Comme tu veux.
Bon. Donc voilà, c'est un regroupement pendant le projet immobilier. Donc on est tous collaborateurs du projet. Donc il y a un travail d'autopromotion fait ensemble, de co-conception du projet architectural, et aussi on fait du logement un projet politique.
Ah, on y viendra.
Ouais, je sais, on y reviendra. C'était juste pour mettre une petite comme ça.
D'accord.
Donc voilà, c'est en un mot, une forme de mise en commun de l'habitat, dans le sens, il y a plein de choses à dire sur qu'est-ce que c'est que l'habitat. Et c'est un mode très particulier du vivre ensemble. Alors, pour donner un exemple qui cristallise bien ça, c'est la gestion des espaces communs. Vous remarquerez qu'il y a le mot « commun » dedans, dans « espace commun ». Mais c'est pas parce qu'il y a des espaces communs qu'il y a forcément du commun. Alors, espace commun au sens physique, là, ce que je dis par là, c'est vraiment les espaces de distribution, les couloirs, les halls d'entrée, les jardins, le parking, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose au sens physique, mais très rapidement, on va arriver au sens immatériel, au sens symbolique, au sens de la gestion, de comment on gère ces espaces-là. D'habitude, les espaces communs, dans les copropriétés en particulier, c'est ou dans les immeubles, ou même, je vais aller plus vite là-dessus, c'est des espaces qui sont relativement peu maîtrisés, et peu habités, et peu appropriés. C'est typiquement le hall d'entrée, qui n'y a pas d'affiche, où il n'y a pas vraiment de décoration, c'est assez neutre, parce que c'est pas chez quelqu'un, quoi. Pour aller vite dans un habitat participatif, on va faire le pari inverse de justement s'approprier collectivement ces espaces-là, pour les habiter, pour faire en sorte que ça soit déjà chez quelqu'un. On n'est pas chez quelqu'un en particulier, on n'est pas chez tel ménage ou tel ménage, mais on est déjà chez quelque chose, ce qu'on appellera un chez-nous, chez le groupe, quoi. Il y a quelque chose qui est déjà habité. D'habitude, dans une copropriété, non seulement c'est pas habité, mais en plus ça serait illégitime de se l'approprier. Le cas typique, c'est les halls d'entrée qui sont squattés par des gens, donc squattés, c'est-à-dire comme me dirait un juriste, une appropriation illégitime d'une propriété, c'est ça, un squat, n'est-ce pas ? À peu près. Hein. Bon, et ben normalement, un espace commun, on n'est pas censé se l'approprier. Dans un habitat participatif, tout est fait en sorte pour justement se l'approprier, mais pas de façon privée, dans le sens, en tout cas, pas dans le sens de chaque ménage, mais dans le sens du groupe, donc une appropriation collective. Okay. Donc il y a une forme de pari qui est de gérer collectivement les espaces communs. Tu me dis OK, pourquoi ?
Bon, enfin, non, mais je veux te laisser finir sur les caractéristiques. Mais...
Ouais. Bon, en un mot, le but de ça, c'est on essaye de réduire les espaces utilitaires. La buanderie, ça sert à rien d'en avoir plein, ça sert à rien d'avoir plein d'espaces de machines à laver, donc on les réduit. Alors que, du coup, ça nous permet d'avoir plus d'espaces de rencontres. Donc c'est des espaces communs, mais de rencontres, typiquement la salle associative, la salle des fêtes, voilà. Donc, là-dedans, je reconnais, moi, des communs. Alors, dans le sens que d'Ostrom, comme ça a été dit tout à l'heure, alors, pas exactement dans le sens bien, enfin, comme ça a été dit tout à l'heure, mais dans le triptyque qui a été énoncé, c'est-à-dire le fait que ça soit des biens ou des ressources, si vous voulez, on peut dire biens ou ressources. Deuxièmement, des communautés ou des collectifs, parce que le terme communauté n'a pas très bonne presse dans le contexte français. Et des règles de gouvernance. Et puis donc, ça c'est une définition des communs. Il y a plusieurs contradicteurs qui vont apporter quelque chose, vous dire que c'est pas exactement vrai. Une chose principale, ça va être de dire que ça sera pas prédéfini en tout cas. On parle bien de biens ou de ressources, mais surtout pas des biens prédéfinis ou des ressources prédéfinies. Ça sert à rien de faire une liste prédéfinie des choses qui seraient naturellement des biens communs. Ça sera pas non plus des communautés prédéfinies. Ça sert à rien de dire que ce que fait telle communauté culturelle de je sais pas où, tout ce qu'elle fait par nature, ça sera commun parce que c'est une communauté. Non, c'est pas prédéfini. Un commun se construit par la gestion même du bien. Et enfin, c'est pas non plus des règles prédéfinies, comme on pourrait faire dans un règlement prédéfini, ou comme on pourrait faire par une institution qui serait capable de dire c'est nous qui gérons le climat, donc du coup on fait une institution internationale, et donc du coup, comme c'est nous qui le faisons, et comme c'est nous qui réglementons, c'est typiquement un commun. Conclusion de ça, c'est de dire ce qui est au centre de tout commun, c'est du travail. On travaille tout le temps du commun. Si on ne travaille pas toutes ces notions-là, c'est plus un commun. Ce qui ne contredit pas ce que disait Ostrom, mais ce qui est une bonne, ce qui contredit des mauvaises lectures, je dirais, d'Ostrom. Et enfin, pour faire le lien, en quoi les habitats participatifs, je reconnais que ce sont des communs. Premièrement, c'est parce que ça correspond à chacun des trois niveaux. Premièrement, c'est des biens ou des ressources. Alors ça, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met en commun, comme bien commun ou comme ressource commune dans des habitats participatifs. Alors, il y a déjà de l'espace, évidemment, des espaces de distribution, des buanderies, des locaux communs, etc. Il y a des équipements, comme des machines à laver, des outils, des voitures aussi, on se prête les voitures. Là, je suis venu aujourd'hui pas avec ma voiture, mais avec la voiture d'un voisin, petite précision. On se prête aussi des œufs, enfin, on se les échange, quoi, mais c'est vraiment quotidien, on n'est jamais en rade du coup de choses comme ça. On met en commun aussi des finances, c'est-à-dire qu'on met un pot commun, alors ça dépend des groupes ou quoi, mais en tout cas, on met toujours à un moment donné en commun des finances. On met aussi en commun des compétences, ceux qui savent faire une chose, ceux qui savent faire l'autre chose. On met en commun nos réseaux, ce qui fait que du coup, on a, voilà, tout ça est mis en commun. Et dernière chose, et pas la moins importante, on met en commun de la vie, on met en commun des idées, on met en commun de la convivialité, on met en commun des enfants, c'est pas une blague, il y a vraiment cette question-là de savoir c'est qui les parents de qui, c'est un peu le bordel là-dedans, on le fait un petit peu exprès, et il y a vraiment même des fois ça se passe mal, c'est-à-dire qu'il y a, pour raconter une anecdote je trouve très parlante, c'était un enfant qui était né, et les autres qui disaient « Ah, c'est l'enfant de l'immeuble, le premier enfant de l'immeuble !» Et les, à ce moment-là, vraiment, les parents qui n'étaient pas très bien dans le groupe se sont vraiment rendus compte que non, c'était pas possible, c'est mon enfant, vous pouvez pas me l'exproprier, mon enfant, enfin, il n'y a pas de droit, comme vous n'avez pas de droit sur mon enfant, enfin, je le dis vite, parce qu'ils ne disaient pas exproprier, mais il y avait vraiment cette idée-là, comme quoi on met en commun, un peu, dans une certaine limite, bien sûr, les enfants. Deuxième chose, des communautés ou des collectifs, ça pose à la question « commun à qui ?» Tu m'arrêtes hein, si je parle trop.
Ah ben, je ne sais pas quand, jusqu'où tu vas. Tu as quelques minutes pour conclure sur ce point, les caractéristiques des communs. Ouais.
Commun à qui ? Ça, c'est une question toujours ouverte et qui se pose tout le temps. Dans quelle limite on se pose, on dit que c'est, est-ce que c'est commun au ménage ? Est-ce que c'est commun au groupe ? Est-ce que c'est commun au-delà de notre habitat ? Donc voilà, il y a plusieurs ménages. C'est ça qui, par ce biais-là, qu'on va être à la fois voisin et cohabitant. Parce qu'en fait, on passe d'une logique à l'autre tout le temps. Et c'est toujours non défini. De façon exprès, ce n'est pas défini. D'accord. Donc il y a un travail de la propriété, donc qui est propriétaire de quoi, qui participe et au profit de qui. Et donc la dernière chose, pour ne pas trop prendre de temps, il y a toujours une extension du domaine de ce qui se discute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien s'il faut discuter de comment on tond la pelouse, comment on repeint ou quoi, mais on ne sait même pas trop s'il faut en discuter. Donc même ça, il faut en discuter. Et ça arrive au troisième point, qui est qu'il faut qu'il y ait des espaces de communication, qui sont les règles de gouvernance, et à commencer par déjà des espaces où on communique. Donc des espaces de réunion, qui sont des espaces formels, et aussi des espaces non formels, qui fait qu'on n'arrête pas de se communiquer les uns avec les autres, et on n'arrête pas de parler, que ce soit au palier, que ce soit dans le jardin, parce qu'il y a plein d'apéros, il y a toujours plein d'apéros dans les habitats participatifs. Et les enfants, encore une fois, sont très importants, parce qu'ils n'arrêtent pas d'aller chez les uns, chez les autres, et du coup on est obligé de s'organiser pour ne serait-ce que gérer les enfants. Et ce sont des espaces de communication, ce qui est le troisième point des communs.
Merci Pierre. Moi je reprécise, Pierre est à la fois sociologue et acteur des communs. On le voit. Puisque tu habites un habitat participatif. Et on voit, bon, il y a évidemment des conjonctions entre l'économie et la sociologie. Moi je dirais qu'il y a un accent, on l'a mis sur la relation du côté du sociologue. Mais c'est bon, c'est. Voilà. Et de ce côté-ci, c'est plus sur. On a commencé par catégoriser des biens, soustractifs, rivaux, exclusifs. En fait, ça se rejoint. Je vais m'adresser maintenant à un juriste. Petite précision, il y aura un échange de 30 minutes avec la salle à la fin, c'est prévu. Mais si les questions surgissent, on peut les prendre. Donc, je m'adresse maintenant à un juriste donc, qui fait du droit public et qui a travaillé sur la gestion du domaine public. Sur le code général de la propriété, c'est intéressant, hein, le code général de la propriété des personnes publiques, donc propriété des personnes publiques. Et première question, Michael Lavenne, parmi les caractéristiques mises en avant par Julien et par Pierre, lesquelles pour vous sont vraiment, enfin, sur quoi parmi ces caractéristiques vous appuyez-vous pour penser la gestion du domaine public, sur peut-être la réduction ou l'extension du domaine public au regard de l'évolution des lois, voilà, en quoi la notion de commun éclaire un publiciste, quoi, un juriste qui s'adresse au droit public.
Ah oui, effectivement. Alors, d'abord, merci pour l'invitation à travailler sur cette question du commun. Alors, pour le publiciste, enfin pour le juriste en droit public, c'est vrai que c'est la question de la propriété publique, du domaine public qui se pose, et aussi en creux le droit de l'urbanisme qui, à travers le permis de construire, régule l'épanouissement de la propriété privée. Alors, en vous écoutant tous les deux, alors moi, je n'ai pas travaillé de la même manière, et donc du coup, je découvre aussi au fur et à mesure de la table ronde les différents angles qui ont été retenus par deux disciplines, mais en tout cas une chose m'apparaît assez claire, c'est que c'est assez relatif la définition de ce qui est commun et qu'il y a une volonté de rationaliser ce qui peut être considéré comme commun et cette relativité de ce qui peut être considéré comme commun et qui le fait et comment C'est exactement en fait ce qu'on trouve dans la gestion du domaine public. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je dis domaine public à dessein, tu parlais de la propriété des personnes publiques. Initialement, le domaine public, l'espace public, n'était pas considéré comme la propriété des personnes publiques. L'État n'était pas considéré comme le propriétaire, il en était considéré comme le gardien. Et c'est à partir du moment où on a souhaité mettre en œuvre une valorisation économique du domaine public qu'a été adopté en 2006 le Code général de la propriété des personnes publiques. Et donc, ça met le lien entre la notion même de propriété et valorisation économique. Alors, pour en revenir plus concrètement, plutôt que rester sur les réformes générales, sur le domaine public, il y a une grande question qui se pose, c'est son utilisation. Qui peut l'utiliser et comment ? Et à partir du moment où quelqu'un l'utilise, donc une personne, à quel point ça soustrait au commun ce domaine public. Et donc c'est la question concrète de l'autorisation d'occupation du domaine public. Un commerçant demande une autorisation d'occupation du domaine public pour la terrasse de son bar pour aller boire l'apéro. Se pose donc la question de savoir si le fait de donner l'autorisation à ce commerçant, c'est dans l'intérêt général ou pas. Et là donc ça met en lien quand même la question du commun et les contradictions qui peuvent exister là-dedans. C'est en quoi l'appropriation même temporaire et économique de l'espace public peut être d'intérêt général ? À quel point l'occupation et l'emploi par l'économie, par le commerce, par les acteurs privés contribuent au commun, mais en sens inverse, à quel point aussi le fait de ne pas utiliser l'espace public, je pense par exemple les plages, les sentiers côtiers, etc., enfin, qui vont être nus de toute appropriation économique, ben, ça contribue aussi au bien commun. Et à travers ces deux exemples, on voit bien, dans un cas, on va avoir une composante économique du commun, c'est-à-dire en développant économiquement une ville, ben, ça va contribuer au commun. Et en même temps, de ne pas laisser une appropriation économique de la mer, de la nature, etc., ça va aussi contribuer au commun. Et j'ai le sentiment, en écoutant les deux précédents intervenants, qu'il y a vraiment cette relativité des caractéristiques qui varie selon moi, et ça serait un peu la conclusion pour être rapide à la question, c'est que la définition du commun, elle est toujours l'enjeu de pouvoir et de lutte avec la prétention de définir ce qu'est vraiment le commun. Or, évidemment, personne ne parle d'un point de vue neutre. Et donc, évidemment, c'est toujours à partir d'intérêts. Et donc, la définition du commun, elle est l'enjeu de lutte d'intérêts. Et le résultat, bah, c'est lui qui a le plus de pouvoir pour imposer sa définition du commun.
Oui, sauf que, en fait, quand vous utilisez le mot commun, vous ne l'utilisez pas de la même manière que moi. Parce que quand vous dites commun, vous dites la chose publique ou l'espace public ou la chose commune au sens juridique, c'est-à-dire au sens de la société ou de toute la population. Et vous dites, voilà, il y a des endroits, et moi, ce que j'appellerais un bien public, justement, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire des endroits qui sont non rivaux ou faiblement rivaux et des endroits qui sont non exclusifs, la plage, la rue, et on va pouvoir éventuellement le privatiser, c'est-à-dire l'exclure ou donner des droits supplémentaires à des gens d'exploiter cette chose. D'accord ? Donc on voit bien là que, comme vous le disiez, c'est des droits supplémentaires qui sont donnés. Les biens peuvent varier suivant le droit ou suivant la collectivité. Mais quand vous parlez de commun, vous parlez-vous rien de des questions de société, de qu'est-ce qu'on fait tous ensemble en commun. Quand on parle de commun d'un point de vue d'Ostrom, on ne parle pas du tout de ça. On parle de l'exploitation, finalement, par un groupe qui va, alors peut-être par le droit, par peut-être d'autres solutions, mais qui va s'approprier, en fait, une ressource et qui va l'exploiter pour ses besoins propres, en garantissant éventuellement que cette ressource soit pérenne, donc que pour la société, pour la collectivité, cette ressource soit maintenue. Et ce que dit Ostrom, c'est que parfois, il vaut mieux confier l'exploitation d'une ressource à un groupe privé d'individus qui vont la gérer collectivement, en fixant des règles, etc., que ça sera plus efficace que de la gouverner par l'État ou par un seul acteur privé qui risquent de s'en occuper de moins bien, c'est-à-dire de moins garantir cette ressource. Mais quand on parle de commun, et bien, il y a cette discussion, on va dire, entre la chose commune et la ressource commune qui est au sens d'Ostrom, est bien la ressource d'un petit groupe qui met des frontières pour pouvoir exploiter cette ressource, parce qu'il en a besoin, et aussi parce que les autres, la société, acceptent ça, parce que ça génère des choses intéressantes pour elles aussi. Donc il y a quand même des définitions un peu différentes des communs. Alors là
même,
où je...
Même là-dedans, l'État a un rôle à jouer.
Alors, l'État, parce qu'il régule, parce qu'il est gardien d'eux, parce que c'est lui qui assure aussi que des droits sont respectés, hein, et donc il va garantir, par exemple, l'existence de communs. Mais à mon avis, cette discussion-là, elle vient aussi, finalement, qu'on a peur d'utiliser d'autres mots pour discuter de ce qu'on fait ensemble, qui peuvent être la société, la collectivité, le débat démocratique, la représentation démocratique et le mandat qu'on donne à des élus de décider pour nous, éventuellement aussi la discussion collective dans d'autres espaces que des communs, enfin des biens communs tels que j'ai défini, par exemple des biens clubs. Pour moi, ce que tu nous racontes là sur l'habitat partagé, c'est un bien club. Vous êtes une petite groupe de gens qui avaient décidé de, sur un espace privé, de faire quelque chose ensemble et qui ne vous concerne que vous, finalement. Tous les exemples qu'on a en commun, et peut-être que c'est beaucoup plus intéressant que se disputer sur la définition, c'est de savoir finalement comment des groupes humains de tailles différentes s'organisent pour gérer collectivement des choses et pour intégrer des points de vue différents, pour ce que tu disais tout à l'heure, pour fixer des règles, pour discuter ces règles en permanence, et pour finalement pour que tout le monde profite de ces règles et trouve une place dans ce système-là. Et il y a plein de moyens, il y a des moyens démocratiques, des mandats, des moyens plus locaux, des associations, etc.
Merci à Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO. Merci à Michaël Lavenne, enseignant-chercheur en droit public. Et merci à Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Nous les retrouvons dans le prochain numéro pour parler de l'intérêt particulier des personnes et des communautés à s'engager dans ces projets. Suite donc au prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.